Laudetur Jesus Christus.
Audience générale sur les vices et les vertus avec ce matin place Saint-Pierre, une catéchèse du pape consacrée aux vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. On y revient juste après les titres. L'Arménie et l'Azerbaïdjan entament la délimitation de leurs frontières communes pour Yerevan. Il s'agit de se mouvoir dans une région prise en étau entre deux conflits régionaux, c'est ce que nous verrons. Le Rwanda, fin prêt à accueillir les premiers demandeurs d'asile refoulés par le Royaume-Uni. Reportage de notre correspondante à Kigali dans l'une de ces structures qui abritera ces réfugiés expulsés. Les prochaines élections législatives au Togo se dérouleront dans le cadre d'une nouvelle constitution, ce à quoi étaient opposés les évêques du pays qui estiment que cette évolution constitutionnelle divise davantage les Togolais qu'elle ne les unit. C'est ce que nous verrons avec le président de la conférence épiscopale.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Après avoir détaillé au cours des semaines précédentes les vertus cardinales, patrimoine de l'humanité, le pape est revenu ce matin lors de l'audience générale place Saint-Pierre sur la vie de la grâce selon l'esprit incarnée par les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, des vertus qui nous protègent des dangers de l'autosuffisance. Le compte-rendu d'Olivier Bonnel.
La foi, l'espérance et la charité sont appelées théologales dans la mesure où elles sont reçues et vécues en relation avec Dieu. Elles fondent, animent et caractérisent l'agir moral du chrétien. Elles sont le gage de la présence et de l'action de l'Esprit-Saint dans les facultés de l'être humain, a rappelé François en citant le catéchisme de l'Église catholique. À la différence des vertus cardinales qui peuvent générer des hommes et des femmes héroïques dans l'accomplissement du bien, mais seuls, voire isolés, le grand don des trois vertus théologales, a-t-il expliqué, est cette existence vécue dans l'Esprit-Saint. Le chrétien n'est jamais seul, il fait le bien non pas par un effort titanesque d'engagement personnel, a précisé le pape, et parce qu'en tant qu'humble disciple, il marche derrière le maître Jésus. Ces vertus sont ainsi le grand antidote à l'autosuffisance, a poursuivi le souverain pontife. Il est pour cela nécessaire d'ouvrir notre cœur à l'Esprit-Saint. Si nous avons perdu confiance, a conclu le Saint-Père, Dieu nous rouvre à la foi. Si nous sommes découragés, Dieu réveille en nous l'espérance. Si notre cœur est endurci, Dieu l'adoucit par son amour.
Olivier Bonnel, et à l'issue de cette audience générale, le pape a tourné ses pensées vers l'Ukraine martyrisée, où tant de jeunes soldats meurent, a-t-il dit, vers la Palestine et Israël, avec l'espoir d'y voir deux États libres et en bon terme, et vers la Birmanie. François a invité également les fidèles à prier pour la paix. Concernant le conflit dans la bande de Gaza, l'Allemagne a annoncé ce matin reprendre sa coopération avec l'UNRWA, l'agence onusienne chargée des réfugiés palestiniens. Berlin avait suspendu tout financement après les accusations de collusion avec des groupes terroristes formulés par Israël contre l'agence. Accusation sans preuve, a conclu un rapport de l'ONU. L'UNRWA a de son côté demandé aux Nations Unies d'enquêter sur la mort de 180 de ses employés tués par l'armée israélienne et sur la destruction partielle ou totale de 160 de ses locaux dans l'enclave palestinienne au cours des 6 derniers mois. L'Ukraine martyrisée se félicite du vote définitif par le Congrès américain de 61 milliards de dollars d'aide qui doivent lui permettre de renforcer sa défense. L'Ukraine en mesure toutefois de lancer des attaques de drones contre des sites énergétiques russes dans la région de Smolensk à 400 km de ses frontières. Selon le ministère ukrainien de la Défense, il s'agit là de cibles légitimes. Deux dépôts pétroliers ont été touchés. Quelle frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan? C'est pour répondre à cette question que les deux pays ont commencé à délimiter leur territoire, avec pour objectif de parvenir à une paix définitive. Le tracé devrait se baser sur la déclaration d'Almata de 1991, qui reprend les limites des anciennes républiques soviétiques. D'où la restitution la semaine dernière par l'Arménie de 4 villages à l'Azerbaïdjan, ce qui a provoqué la colère des Arméniens. Pas facile pour le premier ministre arménien, Nikol Pachinian, de naviguer alors que son pays est pris en étau entre deux conflits régionaux majeurs. C'est ce que nous explique le chercheur Gaïs Minassian, il est expert associé aux séries Sciences Po.
On est encore dans le prolongement de la logique de la défaite de 2020. Sur cette logique se greffe la guerre en Ukraine, qui ne se passe pas comme prévu pour Moscou, puis la tension au Proche-Orient entre Israël et Gaza et sur fond de guerre larvée entre Israël et l'Iran. Donc le Caucase, du Sud devient un pli entre ces deux guerres. Et les acteurs locaux sont obligés de tenir compte de l'évolution des deux fronts. Donc la marge de manœuvre du Premier ministre Pachinian est la suivante. C'est ce que je ne peux pas gagner ou reprendre militairement, parce que le rapport de force est largement en faveur de l'Azerbaïdjan. Je vais essayer d'obtenir des gages, des compensations diplomatiques. Donc de sauver le territoire souverain arménien. Et malheureusement, en regardant la défaite du Haut-Karabakh avec toute la gravité de la situation pour les personnes qui en ont été chassées.
Des propos recueillis par Alexandra Sirgan. Nouvelle pomme de discorde entre l'Union européenne et la Chine. Bruxelles a ouvert ce matin une enquête sur les marchés publics chinois de dispositifs médicaux. La Commission soupçonne Pékin de pratiques discriminatoires contre les produits européens. Cette initiative a été aussitôt dénoncée par le gouvernement chinois qui accuse l'UE de protectionnisme. Contentieux également entre la Chine et les États-Unis. Cette fois, c'est le réseau social TikTok qui est dans la ligne de mire du Sénat américain qui lui demande de couper ses liens avec sa maison mère, ByteDance, et avec la Chine pour ne pas risquer d'être interdit sur le territoire américain. Autre contentieux entre Pékin et Washington, il s'agit de Taïwan. Le gouvernement chinois a prévenu que le soutien militaire américain à Taipei ne faisait qu'accroître le risque de conflit de part et d'autre du détroit de Taïwan. Le Congrès américain a approuvé hier une aide de 8 milliards de dollars à l'île. Après de nombreux allers-retours entre les chambres du Parlement britannique, le Royaume-Uni a finalement adopté hier soir la très critiquée loi déclarant le Rwanda suffisamment sûr pour pouvoir y envoyer des demandeurs d'asile entrés illégalement sur le territoire britannique. Dans ce pays africain, plusieurs hôtels ont été réquisitionnés déjà pour accueillir les migrants expulsés qui devraient atterrir d'ici 10 à 12 semaines. Notre correspondante Enola Richer a visité l'un de ces dispositifs.
Les tables sont dressées dans le réfectoire, on se croirait presque dans un hôtel fantôme. Depuis juin 2022, date de la signature de l'accord entre le Rwanda et le Royaume-Uni, le Hope Hotel, situé au nord de Kigali, est fermé à la clientèle. Il a été choisi pour accueillir les migrants envoyés par Londres à leur arrivée et tout est prêt, assure Ismaël Bakina, manager de l'hôtel.
Nous sommes prêts à 100%. Les logements, les services bancaires, les divertissements avec les baby-foot ou les terrains de jeu sont prêts. Tout notre staff les attend.
Le Hope Hotel comporte 50 chambres doubles sur 4 étages, chacun équipé d'un bloc salle de bain et laverie. En tout, il pourra accueillir jusqu'à 100 personnes.
Vous voyez ici que nous avons deux lits par chambre, ainsi que des tapis de prière, des corans et des bureaux.
Leur séjour devrait durer entre quelques semaines et plusieurs mois.
Nous fournissons aussi des bureaux aux services d'immigration, pour mener leurs entretiens où les demandeurs d'asile seront enregistrés.
Après leur enregistrement, le Rwanda se tient prêt, selon le gouvernement, à intégrer pleinement ces immigrés dans la société rwandaise. Des immeubles sont également en cours de construction pour les loger sur le long terme.
Un reportage signé Enola Richer à Kigali au Rwanda. Les partis politiques s'activent au Togo en vue des élections législatives du 29 avril, des élections d'autant plus importantes que ce seront les premières depuis l'adoption la semaine dernière d'une nouvelle constitution qui transforme le Togo en république parlementaire. Depuis, l'opposition est partagée entre crainte d'une répression et désir de mobilisation. Les évêques du pays, eux, s'étaient opposés à cette réforme constitutionnelle. Monseigneur Benoît Louonou, président de la conférence épiscopale du Togo, exprime sa grande tristesse face à une telle situation qui pourrait diviser un peuple togolais en quête d'unité.
Je ne parlerai pas d'une réaction de l'Église, mais d'un sentiment de grande tristesse. Oui, tristesse, car notre pays a besoin d'apaisement et de vérité. Or, cette modification de notre constitution qui intervient à quelques jours des élections législatives est manifestement source de division, source d'incompréhension. Et puis, on se demande où allons-nous ? Et la crispation entre les citoyens de notre pays. Le message de l'Église est un vibrant appel à nos autorités, un message à écouter le peuple, entendre son inquiétude, son incompréhension sur ce sujet de modification de la Constitution. L'Église réitère donc son appel à être à l'écoute de l'aspiration de notre peuple à plus de justice, de vérité et de paix. Nous avons invité à la prière. Nous avons toujours confiance à celui-là qui est notre Dieu, notre Créateur et à sa mère. Le nom du Seigneur est notre secours.
Monseigneur Benoît Louonou, le président de la conférence épiscopale du Togo, il était interrogé par Françoise Niamia. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 18h, heure de Rome. D'ici là, notre site internet ou notre page Facebook. Très bonne journée à toutes et à tous.